Bonjour Elena, nous sommes maintenant ce matin, ce dimanche matin sur antenne, pour parler donc et pour faire démarrer pour la première fois cette nouvelle séquence du bien-être surtout. Et aujourd'hui nous allons parler de changement. Bonjour Elena.
Salut Christian.
Alors, quels sont les conseils que tu peux nous donner en tant que coach concernant le changement?
Ah, bah écoute, c'est une bonne question Christian. Comme tu sais, justement, le changement, c'est un petit peu mathématique, hein. C'est-à-dire que, comme je te l'expliquais, comme je le disais aux auditeurs, c'est que moi, en tant que coach, ma spécialité, c'est vraiment le changement de vie, c'est-à-dire, voilà, changer une situation qui correspond plus, quitter un job qui correspond plus, quitter une relation qui correspond plus, quitter une habitude qui est néfaste. Mm-hmm. Bref, vraiment, oser changer finalement sa vie, oser aller réaliser ses rêves, oser entreprendre ce qui est important pour soi, oser quitter peut-être le monde du salariat si ça correspond plus. Vraiment, c'est oser changer. Et en fait, je me suis rendu compte, Christian, qu'il y avait 4 étapes qui étaient vraiment fondamentales pour le changement. 4 étapes, en fait, qui sont des étapes qu'on passe quasiment tous lorsqu'on change une situation. Et donc, j'ai pu me rendre compte via les personnes que j'accompagne, via les conférences que je donne. J'ai pu décortiquer, si tu veux, les étapes du changement en 4 étapes majeures. Et
d'accord.
Aujourd'hui, j'avais envie finalement de parler de la première étape, hein, parce que c'est la base. C'est vraiment l'étape qui est fondamentale pour changer une situation.
Oui.
Et donc, finalement, c'est très simple à comprendre parce que le cerveau, tu vois, a 2 leviers principaux pour changer une situation. En
d'accord.
fait, le cerveau est câblé sur la douleur et le plaisir. Ça veut dire que pour changer une situation, et d'ailleurs c'est la première étape du changement,
oui.
c'est que soit on doit vivre de la douleur par rapport à une situation,
oui.
soit on peut vivre du plaisir ou de l'enthousiasme à l'idée de réaliser quelque chose.
D'accord.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, pour la plupart des personnes, et je peux également faire partie pour certains sujets de ma vie, la plupart des gens ont besoin, et on peut le constater autour de nous, ont besoin de souffrir suffisamment, d'être suffisamment dans la douleur, pour changer une situation. Je prends un exemple classique de quelqu'un qui veut changer de travail, n'est pas heureux dans ce qu'il fait, ne sent pas à sa place. Parfois, il faut beaucoup de temps avant que la personne réagisse. Parfois, il faut de la douleur sous diverses formes. Ça peut être un burn-out, ça
oui.
peut être un cancer,
oui.
ça peut être des symptômes physiques,
oui.
ça peut être des insomnies, ça peut être, des relations qui sont très compliquées avec sa hiérarchie.
Mm-hmm.
Et parfois, on se rend compte qu'il faut vraiment que la personne soit très très mal pour enfin changer une situation.
D'accord.
Maintenant, c'est aussi possible de le faire dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, moi, j'ai envie de faire mon tour du monde. Moi, j'ai envie de créer mon entreprise. Moi, j'ai envie de réaliser tel projet, de faire tel voyage, de faire telle chose, en fait.
Mm-hmm.
Et je vais plutôt me connecter à mon enthousiasme et à ma joie pour le faire, au lieu d'attendre finalement la douleur pour changer une situation.
D'accord.
Donc voilà, Christian, ça, c'est vraiment la première étape, si tu veux, pour changer quoi que ce soit, en fait.
Voilà, donc ça, c'est pour la première étape et la deuxième étape.
Et la deuxième étape, eh bien, ça paraît simple ce que je vais dire, mais pourtant c'est tellement important, c'est croire que c'est possible. Croire que c'est possible. Si je ne crois pas qu'une situation est possible, j'ai beau souffrir dans une situation qui ne me correspond plus, d'accord ? Et quand on parle de situation qui ne correspond plus, c'est vraiment au sens large, hein. Ça peut être, vouloir arrêter de fumer parce que j'en ai marre de fumer, ça peut être changer une habitude qui est néfaste, ça peut être manger différemment, ça peut être quitter une relation qui ne correspond plus, qui devient toxique pour nous.
D'accord.
C'est vraiment changer sous toutes ses formes. Mais ça peut être, par exemple, quelqu'un qui est timide, parce que tu m'en parlais hors antenne, quelqu'un qui est timide, qui voudrait faire de la radio, qui voudrait faire autre chose, en fait, qui voudrait simplement être à l'aise avec les filles, qui voudrait oser aborder des personnes dans la rue, etc.
Ouais.
En fait, l'étape vraiment à comprendre, c'est croire que c'est possible. C'est-à-dire que si je ne pense pas que c'est possible de changer une situation, imagine je suis quelqu'un de timide, je ne pense pas que c'est possible de pouvoir être à l'aise et de pouvoir finalement être beaucoup plus confiant, j'ai beau souffrir dans une situation qui ne correspond pas, je n'arriverai pas à changer.
D'accord.
Et donc, parfois, quand justement on est dans une situation qui est bloquante, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas arriver à pouvoir changer cette situation. Le meilleur moyen, en fait, pour changer cette situation, justement, et donc croire que c'est possible, c'est de prendre des contre-exemples. C'est-à-dire de voir des personnes qui sont connues ou moins connues, peu importe, mais de manière virtuelle ou de manière réelle. Ça peut être des biographies des personnes qui nous inspirent, ça peut être des vidéos sur YouTube, ça peut être quelqu'un qui parle à la radio, ça peut être un conférencier, un coach, enfin peu importe la personne, mais quelqu'un qui, dans son domaine, en fait, a déjà dépassé ce que l'on voudrait atteindre. Par exemple, imaginons qu'une personne ait 50 ans, qu'elle ait perdu son travail en tant qu'employé et qu'elle veut en fait avoir un nouveau job et qu'elle pense qu'à 50 ans c'est plus possible. Eh bien, c'est de prendre des contre-exemples d'une personne ou de plusieurs personnes idéalement qui, après 50 ans, voire même plus tard, a su en fait trouver un autre travail.
Oui.
Et ça, c'est vraiment hyper important parce que si je n'ai pas de contre-exemple, j'aurais vraiment du mal à penser que c'est envisageable. Et donc, encore une fois, voilà, j'ai beau souffrir dans une situation, parfois on le voit beaucoup dans les personnes en entreprise qui sont plus du tout à leur place, qui sont pas du tout heureuses, qui n'en peuvent plus parce qu'il y a de la douleur, mais tant qu'elles ne pensent pas qu'elles peuvent changer quelque chose, elles ne pourront pas le faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser à mon histoire, tu vois, parce que avant de faire ce que je fais, j'ai un parcours, comme je l'expliquais, un petit peu particulier.
Ouais.
Et au niveau de l'école aussi, puisqu'en fait, j'avais pas terminé mes études, ne fût-ce que supérieures. J'avais même pas, donc, à la base, le diplôme de secondaire, le CESS. Et donc, j'avais enchaîné des boulots en tant que commercial. J'ai fait diverses professions, mais surtout en tant que commercial. Jusqu'à avoir un dernier boulot, dans une agence immobilière. Et j'étais pas épanouie dans ce travail, mais j'avais même pas forcément conscience de ça, parce que je faisais des insomnies la nuit, j'arrivais pas donc à dormir, j'étais pas très bien dans ce que je faisais, mais j'avais pas vraiment conscience que j'étais pas heureuse, dans le sens où sur papier j'avais tout ce que la société finalement véhicule de bien, c'est-à-dire que j'avais un contrat CDI, j'avais un certain salaire, j'avais voilà tous les avantages qui me faisaient dire mais en fait voilà t'as de la chance, t'es bien là où tu es.
Tout à fait.
Sauf
ouais.
que c'était pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Et en fait, quelque part, au début, je me faisais accompagner par une coach à ce moment-là et elle me disait « Est-ce que tu aimes ce que tu fais ?» Et comme je n'avais pas d'autre vision, d'autre chose qui était possible pour moi, je lui répondais que oui, parce qu'en fait, comme je n'avais pas une autre chose précise en tête et que je ne pensais pas que je pouvais faire mieux que ça, quelque part, c'était compliqué.
D'accord.
Jusqu'à ce que je réalise que je puisse... que malgré mon parcours difficile, malgré le fait que j'ai été beaucoup en échec à l'école et que c'était compliqué pour moi, que si je voulais, à l'âge de 27 ans, commencer à étudier, c'était possible. Et c'est ce que j'ai fait, crescendo, c'est-à-dire que j'ai passé un examen d'entrée dans une école qui m'a accepté, que j'ai réussi, et puis j'ai commencé à passer mes premiers examens, etc., et j'ai réussi progressivement, et donc j'ai cru que c'était possible de changer. Et c'est vraiment important ce que je dis, parce que, en fait... tant que je pense pas qu'il y ait une autre perspective qui est possible que ce que je fais, malheureusement, je peux être, voilà, rester bloquée pendant très très longtemps dans quelque chose qui ne correspond pas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà, il se passe quelque chose de grave. Parce qu'en général, quand on a des signes comme ça de la vie qui arrivent, voilà, un burn-out,
comme tu disais tout à l'heure, d'accord.
Des petites choses, voilà, si on les écoute pas, on finit toujours, je pense, par payer l'addition tôt ou tard. Et voilà, et c'est important justement, voilà, de penser qu'on peut, on peut changer, on peut s'améliorer. Et la clé pour ça, c'est vraiment le contre-exemple, voire des contre-exemples de personnes qui, par exemple, pour ce que je viens de citer, tu vois, quelqu'un qui n'a pas, qui n'aurait par exemple pas étudié, mais qui aurait envie de le faire, tout simplement, et de se dire, mais voilà, moi j'ai toujours été en échec à l'école, comment est-ce que je peux réussir par la suite? Parce que le système scolaire est aussi fait d'une certaine façon pour qu'on vous dise que voilà, si t'as pas réussi les premières années, tu vas échouer toute ta vie, alors que pas du tout.
Non.
D'entourer et de voir des contre-exemples de gens qui ont pas étudié quand ils étaient jeunes, mais qui ont étudié par la suite et qui ont réussi. Voilà. Et ça, ça aide vraiment, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, ça aide réellement à changer de perspective, tout simplement.
D'accord. Comme maintenant, bon, ben, même pour ceux et celles qui ne réussissent pas à l'école, par exemple, il existe des cours du soir et tout ça. Et il y a quand même des personnes qui ont un certain âge qui changent tout simplement de situation et qui se disent, tiens, non, je veux faire ça, mais je vais quand même suivre des cours. Donc voilà, quelque part, non ?
Bien sûr. Alors bien sûr, on voit pas mal de personnes qui le font, et c'est tant mieux. Et comme tu dis, aujourd'hui, en fait, je pense qu'on est dans une société qui n'a jamais été aussi facile en termes d'apprentissage, aussi ouverte en termes de connaissances. Je veux dire, aujourd'hui, on a la connaissance à portée de main. Il suffit de cliquer pour avoir des milliards d'informations.
Tout à fait. Ouais.
Et c'est pareil pour les écoles. On a des écoles en tout genre, des cours du soir, des promotions sociales, qui permettent vraiment, finalement, à tous ceux qui le désirent vraiment, de pouvoir le faire. Mais encore une fois, ça, c'est l'étape qui suit. C'est-à-dire que si à la base, déjà, de base, tu ne crois pas que tu peux y arriver parce que, tu vois, par exemple, moi, dans mon cas, je me disais personnellement, mais voilà, moi, j'ai pas eu des parents qui ont étudié, j'ai pas moi-même étudié quand j'étais jeune, j'ai très peu étudié à l'école. Comment est-ce que je pourrais, en fait, arriver à faire des études supérieures? C'était même pas pensable pour moi à ce moment-là, parce que j'avais pas du tout de perspective par rapport à ça, ni un entourage finalement qui avait vraiment étudié, donc c'était compliqué. Mais vraiment, encore une fois, si tu veux, je suis la preuve, et je ne suis pas la seule, qu'on peut encore une fois commencer très mal ou finalement avoir beaucoup d'échecs, et après, par la force des choses, si on est vraiment motivé, si on est vraiment, voilà, si on a vraiment de la motivation, parce qu'il faut aussi qu'on soit... Il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit important pour soi. Hein. Si c'est pas réellement important pour soi, on n'a pas de raison de le faire non plus. Donc, voilà.
Voilà, donc ça, c'est pour la deuxième étape, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà, on va reparler de la troisième et quatrième étape d'ici quelques instants, après une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, Elena, on se retrouve pour la troisième étape, puisque nous, on vient d'en parler de la première et le deuxième. Mais la troisième étape, dis-nous un petit peu.
Alors, la troisième étape, en fait, c'est très simple, c'est choisir une autre direction ou remplacer ce qui ne nous correspond plus par une autre habitude.
D'accord.
Alors, je vais commencer par l'exemple de nouveau de la personne qui est dans un travail qui ne lui correspond plus, parce que là, pour l'instant, on est en plein dedans. Enfin, ça fait quelques années déjà que la plupart des personnes, il faut savoir qu'il y a des vraies études qui ont été réalisées sur le sujet, d'accord, et que j'avais quand même lu que 94% des personnes n'étaient pas heureuses dans leur travail. Soit presque la majorité, enfin c'est énorme. Donc imaginons que quelqu'un voilà ne soit pas bien dans ce qu'il fait en fait, mais n'a pas forcément de vision sur ce qu'il voudrait faire d'autre. Et bien malheureusement, Christian, on peut souffrir beaucoup dans ce cas-là, donc et dans la première étape, donc la douleur, souffrir. Peut croire que c'est possible aussi de changer, mais si on n'a pas une direction claire de ce vers quoi on veut aller, c'est-à-dire quel job on voudrait faire à la place, quelle activité on aimerait faire à la place de ce qu'on fait maintenant, qu'on n'a pas finalement une vision qui est vraiment claire sur ce qu'on veut entreprendre, le problème c'est qu'on ne va pas changer.
D'accord.
Parce qu'il faut comprendre que l'être humain, par nature, par essence, quelque part, n'aime pas le changement, a peur du changement, on a peur de ce qui est différent, on a peur de ce qui est nouveau, on a peur du vide en tant qu'être humain. On n'est pas à l'aise avec la perte, avec le vide, donc ça veut dire que quitter quelque chose qui ne correspond plus pour rien avoir à côté, c'est extrêmement anxiogène, ça fait très peur aux personnes, enfin à la plupart des personnes en tout cas. Du coup, voilà, si je n'ai pas quelque chose qui est clair pour moi, eh bien, je vais rester là où je suis. Donc, c'est important de comprendre ça. Et en coaching, bah, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille, sur la vision, sur la clarté, sur ce qui est important, finalement, pour la personne de faire. Parfois, elle se découvre à peu importe l'âge, hein, 40, 50 ans. Parfois, elle veut simplement changer de carrière. Mais c'est aussi valable pour les personnes qui veulent quitter une habitude qui n'est pas bonne. Par exemple, je prends l'exemple de ceux qui veulent arrêter de fumer. Alors, je précise que je ne suis pas spécialiste pour le tabac ou pour la nourriture, pas du tout.
Non.
Et que je pense qu'il y a des gens qui seront vraiment bien calés dans ce domaine-là. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que pour les personnes, par exemple, qui arrêtent de fumer, ce qu'on peut voir souvent avec ces personnes, c'est que elles, au début, quand elles arrêtent, elles compensent par la nourriture et donc prennent souvent du poids parce qu'elles ont besoin, voilà, de manger, de se remplir d'une autre façon, en fait.
D'accord.
Et peut-être que la nourriture n'est pas forcément le plus adapté pour faire ça. Mais c'est vrai que remplacer ça par une habitude qui est beaucoup plus positive, comme aller faire du sport, comme créer une association, comme faire d'autres activités, par exemple, qui occuperaient la personne et qui pourraient se remplir d'une autre façon, permet en fait de pouvoir changer et quitter une habitude qui ne correspond plus.
D'accord.
Donc c'est vraiment ça, en fait. Tu vois, l'étape 3, c'est vraiment remplacer ce qui ne correspond plus par autre chose. Ou, quand c'est dans le cadre du travail, c'est choisir une autre direction, c'est aller réaliser son rêve. Mais c'est en tout cas être clair par rapport à ce qu'on veut faire.
C'est ça, d'accord. Donc ça, c'est la troisième.
Yes.
Alors, voilà, ça c'était la troisième. Maintenant, la quatrième.
C'est ça. Et donc la quatrième, c'est une étape que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on a tous en soi et qui va un petit peu à l'idée contraire de ce qu'on entend beaucoup pour l'instant en développement personnel. On parle beaucoup de confiance en soi, d'accord, pour l'instant, comme la clé finalement absolue pour tout réaliser. Et en fait, on oublie que finalement, c'est le courage qui déjà permet d'avoir confiance en soi. C'est-à-dire que quand on a un acte de courage pour quelque chose qui est important pour soi, on développe la confiance en soi parce qu'on est fier de ce qu'on vient de réaliser. Et ça nous permet justement d'acquérir davantage de confiance en soi. Et en fait, la quatrième étape, c'est vraiment l'étape du courage. C'est-à-dire que j'ai beau avoir vécu toutes les étapes précédentes que je viens de citer juste avant, si j'ai pas le courage à un moment donné de me dire, voilà, c'est inconfortable parce que le changement, c'est inconfortable, changer d'habitude, c'est inconfortable. Quitter un travail qui correspond plus, c'est inconfortable, parce que malgré tout, il y a quand même des avantages dans cette situation. Si à un moment donné, je n'ai pas le courage finalement de passer à l'action, malgré la peur, parce que finalement c'est ça le courage, hein, passer à l'action malgré la peur,
ouais.
Rien ne changera en fait. Et je pense qu'on peut réaliser vraiment une vie qui nous inspire profondément, je pense qu'on peut réaliser ses rêves, je pense qu'on peut aller vivre vraiment ce qu'on a dans le cœur, dans les tripes, et vivre nos aspirations.
Mmh.
Mais je crois que ça se fait vraiment au prix du courage, et que toutes les personnes qui réussissent dans leur domaine, selon leur définition évidemment de la réussite, sont pas forcément des personnes qui ont plus confiance en elles, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pas forcément des gens qui ont plus d'argent que les autres. Je pense pas que ce soit des personnes qui soient forcément plus intelligentes non plus. Mais
non.
Par contre, ce qui est certain, c'est que ce sont des personnes qui ont plus de courage.
Ouais.
Et ça sert à rien d'être courageux pour tout. Tu vois, moi, par exemple, demain, si tu me demandes de sauter, je me considère comme quelqu'un d'assez courageuse quand même.
Oui.
C'est un peu ma force.
Mais c'est bien, c'est bien.
Et c'est bien. Mais je suis courageuse dans ce qui est important pour moi, tu vois. Mmh. Par exemple, je pense que ça n'a aucun sens d'avoir du courage pour des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Si par exemple demain tu me dis, viens, on va faire un saut en parachute, ça me demanderait beaucoup de courage de sauter en parachute parce que j'aurais très peur.
Je te rassure tout de suite pour moi aussi, hein.
Voilà, pour toi aussi. Mais comme c'est pas important pour moi et que ça n'a pas de sens réellement de le faire,
ouais.
Ce ne serait pas forcément intéressant que je me dépasse pour aller sauter en parachute, puisqu'au final, ça n'a pas de sens pour moi.
Voilà, oui.
Tu vois ? Mais par contre, si tu me demandes d'aller parler sur scène, et même que je suis pas à l'aise et que j'ai peur devant les gens, mais que le message que je veux transmettre est important pour moi et que ça a du sens,
ouais.
Eh bien, tu peux être sûr que je vais trouver le courage et la force de le faire. Parce que je suis en phase d'un objectif, de quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et le courage, c'est ça, en fait. Et donc, c'est très important de développer, il faut bien le comprendre. Et quand on me demande comment est-ce qu'on développe le courage, eh bien, c'est simple. C'est faire ce qui est important pour soi.
Oui.
Et ça nous aide déjà à le faire. Et bien souvent, quand on n'a pas le choix, ça se fait automatiquement, tu vois. Je prends souvent l'exemple, quand tes parents, par exemple, et que ton enfant devant toi se fait agresser, par exemple, je pense que tu réfléchis même pas une seule seconde
non. Si
tu es courageux ou pas, et je pense que tu y vas parce que
ouais. C'est
important pour toi.
Mm-hmm.
Et donc, dès lors que c'est vraiment important pour toi, on trouve le courage.
Voilà. Donc, en quelque sorte, on a déjà dans le cerveau, au niveau psychologique, déjà cette envie de le vouloir, non ?
C'est-à-dire
comme tu disais là tout de suite, on prenait l'exemple du parachutisme et à la fois sur la scène, mais disons que le projet de la scène, je l'avais peut-être déjà dans ma tête, non ?
Alors pas spécialement, tu vois, parce que par exemple, si je reprends mon exemple, quand j'ai commencé avant de faire ce métier et de faire des conférences, j'étais très mal à l'aise avec les autres socialement, j'avais très peur de m'exprimer publiquement, et j'avais été voir un conférencier qui est assez connu et qui était, on était à Paris dans une salle de 1000 personnes, et j'étais très très inspirée par ce que je voyais à ce moment-là, et malgré que j'avais très peur à ce moment-là et que c'était pour moi inimaginable de pouvoir faire des conférences devant autant de personnes, j'avais déjà conscience que malgré tout, c'était ce que je voulais faire.
Voilà, c'est
donc,
ça.
Mm-hmm. Parfois, en fait, on peut avoir peur de quelque chose, mais justement, cette peur nous indique que c'est important pour nous. Tu vois, la peur, en fait, il y a plusieurs signaux qui nous sont donnés et qu'au début, c'est difficile de comprendre pourquoi on a peur parfois et pourquoi, qu'est-ce qu'il vient nous dire, cette peur, finalement. Mais parfois, on a des peurs comme ça de choses qui, en fait, nous font très peur, mais qui, en fait, sont parce qu'elles nous inspirent profondément et qu'on a envie de les réaliser.
Voilà. Donc tu étais, en quelque sorte, dans une salle de composée de 1000 personnes. Tu voyais cette personne sur scène. Tu te voyais un petit peu quelque part. Et c'est ça, peut-être, qui t'a aidé à aller plus loin, non ?
Mais c'est déjà d'être inspiré, parce qu'effectivement,
voilà, tout à fait.
Oui, j'étais transportée, j'étais inspirée par ce que je voyais. Et donc, effectivement, ça donne de l'énergie. Puis voir que la personne en tant que telle, le conférencier lui-même était mal à l'aise quand il était plus jeune. Il était extrêmement timide. Et pourtant, aujourd'hui, il fait des conférences devant des milliers de personnes. Donc, c'était aussi le contre-exemple dont je parlais tout à l'heure, qui était très important. Et donc, parfois, oui, c'est ça. C'est vraiment écouter cette peur parce que elle peut nous indiquer qu'effectivement, ça nous inspire profondément. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on parle beaucoup de dépassement. Mais justement, le dépassement, quelque part, n'est pas... je veux dire, affronter ses peurs, c'est pas forcément quelque chose de naturel. Parce que à la base, si on a peur, c'est quand même un mécanisme du cerveau pour nous maintenir en vie, d'accord ? Du cerveau reptilien, qui nous permet justement de pouvoir survivre dans l'humanité.
D'accord.
Donc, quand on a peur de quelque chose, le premier réflexe, c'est évidemment d'aller à l'encontre de cette peur et d'aller complètement de l'autre côté. Et c'est normal et c'est naturel. Donc, se confronter en fait à nos peurs n'est pas forcément si naturel que ça. Maintenant, évidemment, il y a des peurs pour lesquelles il faut vraiment être vigilant. Je veux dire, sauter du 15e étage, si vous avez peur de le faire, tant mieux, ne le faites pas.
Bah oui, ça je pense.
Mais pour beaucoup de peurs, malheureusement, aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui est très anxiogène et qui nous fait peur pour plein de choses. On a peur de plein de choses, alors qu'en fait, il n'y a pas tant de dangers que ça. Surtout dans nos pays, on est quand même bien protégés.
Oui.
Et donc, je pense que voilà, il y a beaucoup de peurs qui sont là pour nous protéger. Donc déjà, elles ont un sens, donc merci à la peur. Mais qui parfois peuvent vraiment nous pourrir la vie et peuvent freiner beaucoup de personnes. Mais c'est là justement où le courage intervient. Et ce fameux courage justement n'est pas de ne pas avoir de peur, mais c'est au contraire, c'est de passer à l'action, c'est de franchir en fait ces peurs, tout simplement.
Tout à fait, tout à fait. Eh bien super, bah, tout ça c'est des bonnes perspectives à pouvoir surtout entendre hein, de la part d'un coaching comme toi. Hein, Elena, donc, et puis voilà, aujourd'hui nous avons parlé donc essentiellement de changement, mais il y a d'autres sujets.
Tout à fait, on a plein de sujets à aborder, Christian.
Voilà, donc c'est une très grande aventure que nous démarrons à partir d'aujourd'hui. Alors Elena, comment on peut faire pour avoir les séances de coaching avec toi? Dis-nous un petit peu.
Écoute, c'est simple, si les personnes ont envie d'aller plus loin et désirent un accompagnement en coaching, on peut me retrouver via mes réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai une chaîne YouTube assez développée, donc Elena Carrier, donc Elena, hein, comme ça s'écrit, H-E-L-E-N-A, Carrier. J'ai près de 50 000 abonnés, donc je suis assez facile à retrouver. Mm-hmm. Ça, c'est sur YouTube, je suis aussi sur Instagram et Facebook, mais moins présente. Et sinon, on peut directement envoyer un mail à carrier.elena@gmail.com. Donc Carrier, comme ça s'écrit, hein, C-A-R-L-I-E-R. Elena@gmail.com et je répondrai avec grand plaisir aux questions des auditeurs.
Voilà, donc à dimanche prochain.
À dimanche, Christian. Belle
Merci.
Journée à tous.
Au revoir.